Le commerce de détail, on en parle souvent. Et là, il y a des chiffres ce matin dans la presse qui disent, en fait, qui mettent en lumière le fait qu'il y a eu 500 fermetures de commerce. Bref, c'est une forme d'hécatombe. T'en penses quoi?
Bien, c'est un début d'année, oui, marqué par des fermetures. Mais faut se questionner, est-ce que le marché est juste en train d'évoluer et il y a des commerces qui n'ont plus leur raison d'être? Parce qu'il y a trois choses qui vont changer avec le commerce de détail. Le premier, c'est que les espaces commerciaux, ils doivent redonner de la valeur aux clients et aux commerçants. C'est-à-dire que comme je peux aller sur Internet, comme il y a des magasins de proximité, le centre commercial qui a des gros loyers et qui ne m'attire plus nécessairement comme un one-shop mall, doit m'offrir autre chose. Donc, il doit éventuellement donner des loyers plus acceptables pour des entreprises qui sont là, parce qu'ils n'ont plus la même visibilité ou la même valeur pour la clientèle. Tu dois offrir une expérience client. Et c'est pour ça qu'on voit naître les Time Out Market, le Central, des cafés, des ambiances. Donc, on va vivre une expérience. Autre point, l'importance de la nature du produit. Tu sais, l'exemple de la consommation régulière. Donc, on dit, on va ramener des épiceries près des centres commerciaux. Tu sais, il va y avoir, tu sais, ce qui fonctionne en commerce de proximité, c'est de la boulangerie, de la fromagerie, de l'épicerie, de la coiffure. Donc, des choses qu'on peut pas aller sur Internet ou que c'est plus lié au service et l'expérience. Là, il y a Good Food qui dit qu'il va te livrer une partie de ton épicerie. Donc, comme épicier, il faut que tu offres une expérience d'achat supérieure et des prix concurrentiels. Et le troisième point, c'est la valeur ajoutée. Regarde la liste des bannières qui sont en difficulté. Là, on nous donne, par exemple, Bentley. Bien, une valise, c'est une valise. On peut en acheter sur Internet. C'est pas un achat pressant. Les cartes Carlton, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'achètent plus de cartes papier. Clair de lune, chandelles et parfums, c'est beaucoup des produits complémentaires qui se vendent ailleurs dans d'autres expériences. Alors, t'as plus de valeur ajoutée à aller directement là. Même chose pour Gap, très orienté vente en ligne. Donc, on se cannibalise soi-même. Puis One Import, bon, les produits, il y a quelque chose là-dedans qui, tu sais, 10 000 villages qui te promettait d'être proche de du fournisseur local, ben là, écoute, on peut aller sur Internet puis commander aussi. Donc, il y a des magasins qui ont perdu leur valeur ajoutée. Et quand tu regardes ceux qui sont payants, comme Aridia, par exemple, qui fait de l'argent, tu sais, Aridia, pour un trimestre, a réussi à générer 35 millions de profits au 1er décembre. Pour un trimestre, on vend du linge. Mais on a dit à la consommatrice, viens chez nous, on t'assure une qualité, un design, il y a une espèce d'environnement qui a une valeur ajoutée pour toi et donc notre marge va être intéressante. Il va être juste dans le bon prix pour ce que tu es prêt à payer, mais en même temps, pas du H&M cheap. Donc, tu vois, on réussit dans certains cas à se démarquer et à créer de la valeur. Et c'est coté en bourse, ça réduit ça. Là. On parle de 52 % de rendement depuis
Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que tu ne vas plus acheter en magasin, que tu commandes, ben, tout simplement. Là,
l'électronique va être dur parce que tu regardes ton iPad que tu l'achètes chez Best Buy, Future Shop ou chez Apple, boah, est-ce que c'est pressant de l'avoir maintenant? Donc, pourquoi payer des locaux commerciaux pignon sur rue alors qu'ils n'ont plus la valeur d'autrefois?
Bonne question. Parle-moi des retraités du groupe Capital Média.
Je t'en ai parlé l'année dernière, puis je te disais, ils ont beau aller en appel, ils n'ont pas de cause. Et c'est ce qu'on a confirmé à la cour d'appel. On a dit, on n'ira pas en cour d'appel, on peut pas. Pourquoi? Mais parce que, d'un côté, le syndic, il dit, j'ai deux options. On ferme et on liquide, ou on prend un plan de relance. Et si le plan de relance veut pas payer l'obligation liée au déficit actuariel, il n'y en a pas de solution. C'est que l'ancien employeur n'a pas cotisé suffisamment. Il y a un déficit actuariel. T'as perdu une rente promise. T'as pas perdu une rente cotisée, là. Ce que t'as mis, tu l'as, mais t'as perdu la rente promise. Et ça nous amène à tout le débat encore que je te parlais sur les prestations déterminées. Ouvrons le sujet de façon plus large. Il y a plus de garantie d'entreprise qui va exister dans 30 ans. Donc, c'est un régime à prestations déterminées. Tu dois avoir une conscience du suivi du déficit actuariel pour t'assurer comme employé que ton employeur met assez d'efforts pour le combler s'il y en a un. Autre point. Il y a un fonctionnaire fédéral qui est sorti dans les médias récemment en disant « C'est une prison la fonction ou le régime, si tu veux, parce que je suis pris 35 ans dans le même employeur avec des conditions de retraite qui sont extrêmement pénalisantes. Si tu veux prendre ta retraite d'avance parce que tu juges que tu veux un peu plus de liberté, ta pénalité est tellement grande que tu peux pas vraiment. » Alors, les régimes à prestations déterminées ont été vendus par une strate de la société comme l'apothéose du bonheur. Mais là, on réalise avec le temps qu'il y a une portion de ça qui t'enlève la liberté et l'autre qui te met au risque de la survie de ton entreprise. Il y a beaucoup de gens qui vont m'écrire pour me dire « Oui, mais chez nous, dans notre contexte, c'est mieux, puis c'était mieux pour la sécurité des employés. » Oui, mais pour une portion de la population, ça devient inquiétant de dire « Quand moi, ça fait 7-8 emplois que j'ai, je me dis, est-ce que, même 10, est-ce que je voudrais être concentré dans un seul employeur 30-50 ans et retenu par la prison du prestation d'état. »
Mais ça, ça veut dire que c'est à toi de bâtir ta retraite.
Oui, mais dans le fond, quand tu y penses, tu négocies dans ton salaire.
Oui.
Parce que quand tu as une cotisation déterminée, ton employeur contribue toi avec. Quand tu as une prestation déterminée, ton employeur contribue toi aussi. Et quand tu es travailleur autonome, tu peux aussi te le bâtir. Puis quand tu regardes ton portefeuille de retraité éventuel, quand tu as eu plusieurs employeurs, tu te retrouves avec un CRI, un REER, un CELI, un prestation déterminée d'un employeur que ça soit peut-être touché plus tard ou que tu as rapatrié dans ton compte, mais ce n'est plus un beau compte de retraite unique pour la plupart des gens. C'est un amalgame de plein de régimes ou plein de facteurs qu'on a regroupés qui vont nous fabriquer une retraite et qui nous permettra surtout pas, contrairement à un régime à prestation déterminée, de jouer avec le moment du retrait et donc d'influencer sa propre fiscalité. Et ça, c'est quand même jouissif parfois.
Bonne fin de semaine.
Salut.
Salut. Il est 7h21.